en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. Quand j'étais gamin, il y a donc très longtemps, une chanson passait en boucle à la radio. Femme libérée, ça s'appelait. C'était signé Cookie Dingler avec ces mots. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Eh bien, le livre dont nous allons parler aujourd'hui semble le prouver à chaque chapitre ou presque. On est pourtant bien loin des années 80 ou de la France de Cookie Dingler. Dans une ambiance western, matinée de soap opéra et de thriller psychologique, ce roman nous emmène dans un Far West on ne peut plus contemporain, à travers le destin d'une pétroleuse dont la vie est rythmée par les plus grands air country. En selle, donc, avec Laurent Chalumeau, journaliste, écrivain, scénariste, dialoguiste pour le cinéma et la télévision, les sketchs mythiques du tandem de Côte Garcia dans l'émission culte Nulle part ailleurs, c'était lui, et bien évidemment auteur de romans. Le petit dernier s'appelle Weiss, il est publié chez Grasset, et vous m'en direz des nouvelles.
Are there any more country families still working hand in hand, trying hard to stay together and make a stand? While the rows and rows of houses come creeping up on the land, where the cattle graze and an old gray barn still stands.
Bonjour Laurent Chalumeau.
Bonjour.
C'est avec cette chanson, Are There Any More Real Cowboys, que débute le livre. C'est la chanson qui passe dans le salon de beauté où se trouve la première scène et où se trouve votre héroïne qui est en train de se faire épiler l'intimité. Il y a encore de vrais cowboys. Quelle est votre réponse à vous?
C'est la question que pose la chanson, oui. Tout dépend de ce qu'on entend par vrai cowboy. Des gars montés sur des chevaux qui travaillent le bétail, comme on dit. Ça, à l'évidence, il doit en rester. Les cow-boys tels qu'on les entend en Europe, tels que les garçons de ma génération, en tout cas, ont pu en rêver à une époque où le western était le genre prédominant. Ça a été remplacé par la science-fiction, mais il y a très longtemps, les petits garçons grandissaient soit avec des films de KPDP, soit avec des westerns. Et donc ces cow-boys-là, je ne sais pas s'il en reste, mais la vraie bonne question, ce serait de se demander s'ils ont jamais seulement existé, s'il y en a vraiment eu.
C'est-à-dire l'image cow-boys que l'on a dans la culture populaire ne correspond pas à une réalité historique.
Et donc on fait le yo-yo comme ça constamment entre, enfin, quand on aime le western, quand on sait. Retrouver à grandir avec le cow-boy comme modèle possible de masculinité au fur et à mesure qu'on grandit soi-même. Et si on a la chance d'aller sur les lieux de ces mythologies, on affine.
C'est votre cas? Vous avez grandi vous-même, Laurent Chalumeau, avec ces cow-boys de western?
Moi, quand j'étais petit, j'avais envie d'être le lieutenant Blueberry plus tard, quand je serais grand. C'est-à-dire que c'est pas un mystère, hein, j'ai passé la soixantaine, donc j'ai grandi dans les années 60, et là, comme je disais, les westerns étaient omniprésents, donc ça a vraiment, vraiment, vraiment mon imaginaire, à un point que j'ai pas mesuré même tout de suite. C'est-à-dire que c'est maintenant, avec le recul et avec, je sais pas si c'est de la sagesse, mais avec l'espèce d'amplitude de champ que donne un début d'âge, que je mesure combien, en fait, dans Citizen Kane, c'est une luge avec une rose dessus, mais moi, c'est peut-être justement une page de la série Blueberry. Et puis, je sais pas, Rintintin à la télévision. Enfin, bon, c'est pas forcément des références qui parlent maintenant, mais le western était omniprésent. Et à partir de là, qui dit western dit un genre musical. Alors, la country music, mais aussi le rock and roll. Et de toute façon, on est une génération. Enfin, quand je dis on, c'est les gens de mon âge. On est une génération qui, d'un point de vue culturel, est affecté, sinon affligé, d'un fort tropisme atlantiste. Enfin, on était vraiment dirigé vers la culture américaine.
Alors, y a-t-il encore des vrais cow-boys? En tout cas, Esperanza Running Wolf Carver, qui est votre héroïne, se dit qu'elle aimerait bien se faire un cow-boy. C'est l'expression qu'elle emploie. Il faut dire qu'elle parle cash, qu'elle parle dru, Esperanza. Ce qui fait qu'on est tout de suite vraiment au diapason du personnage. On a vraiment l'impression d'être à côté d'elle, comme ça, dans ce salon de massage, au au diapason du personnage pour utiliser une métaphore musicale, hein, puisque vous le disiez déjà, Laurent Chalumeau, la musique irrigue tout le livre, on va y revenir. On sourit aussi en lisant ce nom à rallonge, hein, Esperanza Running Wolf Carver, un nom qui est déjà tout un programme. Pourquoi Esperanza ?
Bah, c'était d'une part parce que ça veut dire espoir, espérance, bon, ce qui est, comme chacun sait, une qualité qui fait vivre. Et puis c'était pour afficher la latinité d'une partie de ses origines. Running Wolf, c'est pour exprimer son ascendance amérindienne.
Blackfoot, voilà. En l'occurrence. Un running Wolf, loup coureur, hein, c'est comme voilà. Ça qu'on peut traduire. Ça forge un caractère, ça, d'être à la fois latino et indien.
Oui, je pense que pour un personnage, c'est forcément dynamique. Et pour le lecteur, ça installe, même inconsciemment, l'idée d'une petite marge, d'un petit pas de côté par rapport au troupeau, pour rester dans le sujet western. Et du coup, ça qualifie le personnage, c'est-à-dire que c'est autant de choses en moins que le narrateur, enfin que le moi en l'occurrence, va avoir à faire.
Voilà, le pour se suffit pour, à lui-même, oui, voilà, c'est pour pas qualifier, la peine d'en faire des tartines.
Oui, quoi. Voilà, déjà, ça je pense que ça prédispose favorablement le lecteur et que ça le renseigne. Voilà, si assez vite il apprend ou il devine que le personnage est métisse et que s'y entrelace donc des origines peau rouge et latina dans un décor de western, le lecteur est quand même suffisamment au fait des complexités et des bizarreries de la société américaine pour se douter que le personnage va être un peu différent et va avoir eu à surmonter des handicaps ou des discriminations.
Donc sans indien et en même temps, elle aime la country, elle s'y connaît même plutôt pas mal, ce qui peut sembler bizarre parce que c'est vrai qu'on a l'image de la country comme d'une musique de blanc.
Oui.
Et à tort, finalement, est-ce que vous dites, Laurent Chalumeau, vous dites que dans les années 70, beaucoup d'Indiens se sont intéressés à cette
musique-là. Oui, parce qu'en fait, le quotidien que chronique une bonne partie des chansons country, il est aussi celui des Indiens qui vivent sur les réserves, mais qui vivent dans les mêmes régions et qui eux-mêmes élèvent du bétail, eux-mêmes montent à cheval, c'est le moins qu'on puisse dire, eux-mêmes se sentent parfois perdus dans ces majestueuses étendues à perte de vue. Même les Indiens ont parfois le cœur brisé.
Voilà. Évidemment. Et vous-même, Laurent Chalumeau, qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous parle quand vous entendez de la musique country?
Alors, je vous dis, vraisemblablement, ça renvoie à un truc de gosse. Et après, j'ai appris à aimer ça. D'une part, parce que quand je suis allé m'installer aux États-Unis au début des années 80, je connaissais pas bien la musique country et je la connaissais d'autant moins bien que je ne voulais pas en écouter pour des raisons qui aujourd'hui pourraient être qualifiées de bien pensantes.
C'est-à-dire vous aviez des présupposés.
Oui,
quoi.
Oui, j'avais des préjugés, évidemment bien intentionnés, comme souvent les idées préconçues qui pavent l'enfer, dit-on. Mais sous prétexte que j'aimais le rock et les musiques noires, donc le blues, le rhythm and blues, la soul, je considérais que c'était un geste de solidarité vis-à-vis des artistes noirs que j'admirais et qui me donnaient tant de bonheur que de refuser en bloc la musique country que j'assimilais et que j'amalgamais en une musique de bêta-corne, de blanc raciste et rétrograde, de membres du Ku Klux Klan. Enfin bon,
faux.
Alors, ce qui est globalement et heureusement plutôt faux. Il y a évidemment, c'est comme partout, on peut trouver des contre-exemples. Mais et donc, en allant vivre aux États-Unis et en commençant à avoir la chance de beaucoup travailler et voyager pour mon travail à travers les États-Unis, d'une part, je suis devenu vraiment bilingue, donc j'ai pu enfin m'aviser de tout ce qu'il y avait de puissant et d'original dans les textes de nombre de chansons country. Puis surtout, j'ai pu me familiariser avec les univers dont ces chansons étaient issues et les univers qu'elles chroniquaient. Et en fait, je me suis avec un zèle presque de converti, je me suis vraiment entiché de cette musique.
Et l'intrigue est parsemée de références country. On les retrouve d'ailleurs dans une playlist publiée à la fin du roman. Et c'est vrai que de chapitre en chapitre, on est évidemment tenté d'aller écouter tout simplement les titres des chansons que vous citez. Ça aide évidemment à entrer dans l'atmosphère, d'autant que votre écriture aussi, elle est musicale, elle est très syncopée, elle est très déliée. On a presque l'impression parfois que vos mots dansent comme les fesses d'un cow-boy sur la selle d'un cheval, que vos phrases suivent un peu le déhanché du cow-boy. Pour s'en rendre compte, on va écouter un petit extrait du livre. On est à la page 29 et vous racontez la rencontre entre votre personnage, Esperanza, et celui qui va devenir son mari, Michael D. Carver.
Alors qu'elle traversait une séquence pas facile, comme on dit, elle avait croisé cet avocat un poil plus âgé qu'elle, et qui l'eût cru, celle qui ne s'était jamais vraiment sentie à proprement parler amoureuse de quiconque, avait cette fois éprouvé un « je ne sais quoi », comme diraient les Français, plus fort que d'habitude. En tout cas différent, inédit. Et s'était dit « ah, c'est donc ça ? Ok, ma foi, ce n'est pas si mal ». Heureuse de savoir enfin l'effet que ça faisait, se sentant délicieusement normale après tout ce temps, rassurée sur son compte, pas qu'elle se fût à proprement parler inquiétée, mais quand même forcément intriguée par moments, malgré tout, tandis que les années passaient sans que jamais n'affleure cette crazy little thing called love. Or là, certes, sans virer Karenine Reddingue à se jeter sous un train, mais tout de même, alléluia, elle ressentait finalement, oui, un truc fort et sérieux. Tant et si bien que voilà, quand de fil en aiguille il lui avait proposé de l'épouser, elle s'était entendue répondre « oui », assez d'accord avec elle-même en s'entendant le dire. Ensuite, et sans tarder d'ailleurs, elle qui ne voulait mais alors surtout pas d'enfant, convaincue et reconnue d'être ontologiquement inapte, eh bien une fois épousée, hop, bingo, tout s'enchaîne. All inclusive, pension complète, whole shebang, full package, la voilà qui se retrouve embarazada, comme dans les films, l'annonce faite au mari. « Honey, mes Anglais sont en retard ». Là, ça va faire 2 semaines. Du coup, je crois bien qu'ils ne viendront plus pendant un temps. L'autre balbutiant, mais... Et elle, oui, tu m'as bien comprise. Immédiat mec en liesse, fierté perpétuatrice, mal émotion, etc. Elle, à ce stade, acceptant, belle joueuse qui n'a de toute façon pas le choix, coup du sort, coup de salaud, coup en traître de son stérilet qui la poignarde dans le dos, priant juste pour que, au moins, juste ça, c'est tout ce que je vous demande, mais au moins, par pitié, vous en supplie, accordez-moi que ce ne soit pas une fille. Hantise toujours de reproduire avec celle qu'elle élèverait les rapports, laisse tomber, que sa mère et elle ont eu. Et comme de juste, bah oui, sinon la vie ne serait pas drôle, s'en fut une qui naquit. Et comme de juste, toujours s'imposa, illico ou presque, et conformément à l'expression d'usage, comme la plus belle chose qui lui soit jamais arrivée. Non, vraiment, assez vite, et tant mieux, la maternité sut lui plaire. Du coup, pendant 14 ans, ça n'avait pas posé le moindre problème d'être cadré, monogame, de rester concentré. Soit dit pour aller vite, ils étaient heureux.
Voilà, beaucoup de phrases courtes, hein, souvent sans verbe.
Le monsieur Killy mérite une médaille.
Eh bien, Christophe Paget, mesdames, messieurs, on le félicite. C'est vrai que c'est pas facile à lire votre texte, parce que, je le disais, vous avez une écriture très syncopée, très musicale, il y a beaucoup de phrases courtes, souvent sans verbe, il y a des formules chocs, il y a des jeux de mots, l'annonce faite au mari, par exemple, on a entendu, il y a de l'anglais, il y a du franglais, il y a un peu de verlan, il y a un peu d'argot. Aussi, comment trouver le bon dosage entre ces différents éléments, Laurent?
Alors, j'ai essayé de trouver un ton conversationnel. Alors, faussement conversationnel.
Oui, mais c'est vrai que de temps en temps, vous dites, on va vite savoir que on a l'impression que vous racontez une histoire. Voilà, c'est vraiment un conte au coin du feu.
Comme si je racontais une histoire en fin de repas.
Voilà.
Avec l'ébriété
qui peut aller avec en
fin de repas, mais en ne me refusant aucun des procédés mis à ma disposition par la boîte à outils de la narration en 2021. Par exemple, j'intègre, mais ça n'a pas été le fruit d'une longue réflexion, mais spontanément, je pars du principe que mon lecteur est aussi un spectateur et un téléspectateur,
Il a des références.
Oui, il maîtrise.
Il a une rythmique dans la tête et il maîtrise un certain nombre de codes.
C'est ça. Il maîtrise la grammaire des séries et des films presque plus encore que la syntaxe de la langue française.
Et donc, ça veut dire que des images comme ça lui viennent tout de suite à l'esprit?
D'une part, effectivement, l'avantage avec des décors comme ceux de Monument Valley, de l'Arizona, du pays Navajo, du Nouveau-Mexique, etc., c'est que tout le monde, même sans avoir eu la chance de pouvoir y aller, tout le monde voit grosso merdo à quoi ça ressemble. Et puis aussi, ça veut dire que le lecteur va sans difficulté, pour peu qu'on lui lubrifie un peu les rouages, mais va sans difficulté s'accommoder de décrochages spatio-temporels, de flashbacks, de flash-forward, qui peuvent parfois s'avérer commodes dans la narration. Mais comme je dis, le lecteur est aussi spectateur. Donc,
est-ce que vous écrivez avec une gomme, Laurent Chalumeau ? Parce que là, quand on vous écoute, on a l'impression que vous faites à l'oral des phrases plutôt longues, alors qu'à l'écrit, c'est pas du tout le cas.
Est-ce que j'écris avec une gomme ? C'est une bonne question. Je pense que je commence par faire long, quoi qu'il arrive.
Oui.
Et après, je morcelle. Après, je supprime, mais c'est de l'ordre de la pince à épiler et du coton-tige. C'est-à-dire que j'ai effectivement, ça, je suis pas le seul, j'imagine que tous les auteurs ont ça, mais j'ai une mélodie dans la tête. Et parfois, il y a un pied en trop. Donc, il faut aller le chercher quelque part. Donc, parfois, s'il n'y a pas un mot qu'on peut supprimer, je vais supprimer une syllabe dans un mot. Mais juste pour tomber juste dans le, alors le danger de ça, c'est de se retrouver parfois à enchaîner des alexandrins sans faire exprès.
Il ne faut pas que ça devienne une mécanique.
J'essaye de m'en corriger. Et c'est vrai que, avec le temps, il y a un peu de métier qui rentre. Et donc, spontanément, je vais justement essayer de ne pas retomber sur des rythmiques trop binaires. Comme dirait l'autre, et pour cela, préfère l'impair. Donc, c'est vrai que, j'aime bien qu'il y ait une cassure. Parfois, ou d'avoir des fins de paragraphes un peu abruptes.
Il y a même des fins de chapitres qui sont un peu abruptes, parce qu'à de multiples reprises, vous terminez votre chapitre par deux points.
Oui, mais comme
alors,
ça,
on n'est pas très loin du cliffhanger des séries télé, mais une phrase qui se termine par deux points, on se dit, mais il faut tout de suite tourner la page, quoi, évidemment.
C'est l'idée. C'est l'élucidation se trouve à la page d'après. Voilà, c'est. Mais alors, il n'y a aucune prétention à innover ou à faire avancer le schmilblick. Enfin, ce sont des procédés que, pour l'essentiel, je n'inaugure pas. Ou même s'il y en a que je suis le premier à utiliser, je n'ambitionne pas de faire école. Vous voyez ce que je veux dire ? Mon souci, c'était pour raconter cette histoire qui, en fait, m'est venue initialement en écoutant certaines chansons. Parce qu'en fait,
c'est-à-dire que vous avez écrit le livre avec cette
oui,
playlist country ?
Oui, parce que j'écoutais. Comme je vous disais, j'aime beaucoup la musique country. J'en écoute donc dès que l'occasion m'en est laissée. J'en ai sur mon téléphone, j'en ai dans les écouteurs. Si j'ai un trajet, voilà, j'en écoute. Et j'écoute pas mal de country contemporaine. Et principalement, il se trouve que, de mon point de vue, les disques country actuels les plus intéressants sont généralement écrits, enregistrés par des artistes féminines. Et des artistes féminines qui ont des parcours intéressants parce qu'elles réussissent à faire leur petit bout de chemin dans une industrie qui est quand même assez patriarcale, peut-être presque plus encore que d'autres subdivisions de l'industrie du divertissement. Et leurs chansons racontent leur vie de femmes qui, elles aussi, doivent, soit leur vie à elles, soit la vie de personnages féminins qui doivent se démerder pour... Et ce dynamisme-là, cette affirmation d'indépendance m'a donné l'idée et l'envie de mon personnage. Another vibe. Another vice, another call.
were the only thing that I know how to find is another vice.
Vice, Miranda Lambert dans VMDN sur RFI, c'est cette chanson qui a donné son titre au livre, Laurent Chalumeau.
Absolument, c'est l'une des chansons qui m'ont en fait donné envie de raconter cette histoire de femme de 45 ans qui cherche à profiter de l'existence autant qu'elle peut au pays des cow-boys et des indiens de nos jours.
Voilà. Et donc Miranda Lambert fait partie de ces femmes chanteuses de country music qui n'ont peut-être pas eu, selon vous, le succès qu'elles méritaient.
Ah si, alors aux États-Unis, de haute lutte, elles ont réussi à s'affirmer, mais c'est un peu comme dans d'autres domaines de la société. On entend souvent dire ça, et on voit bien comment c'est hélas plausible. Il faut à chaque fois qu'une femme soit au moins deux fois aussi compétente pour se frayer un chemin. On peut se plaire à penser que c'est en train de changer dans certains domaines, mais oui, absolument. Mais Miranda Lambert fait partie de ces artistes que je trouve très très intéressantes et très très originales. Et si vous permettez, juste pour parce que c'est vraiment intéressant, je trouve la question que vous m'avez posée, parce que personne ne me l'avait posée. Est-ce que j'ai écrit avec une gomme? Je la retiendrai, celle-là, un peu comme la phrase qui reproduit le rebondi des fesses du cow-boy sur sa selle au petit galop. En fait, l'idée, avec des procédés différents d'autres livres, l'idée, c'était vraiment d'installer le plus vite possible une espèce de connivence avec le lecteur ou la lectrice. Voilà. C'est-à-dire de lui parler, et de lui parler même plus simplement que je ne suis en train de le faire là, parce que comme vous me posez des questions qui exigent quand même que j'aligne 4 neurones au moment d'y répondre, je peux me retrouver à parler de façon plus ampoulée que je n'écris. Mais vraiment, l'idée, c'était ça. C'était en fonction du sujet de la page, parce qu'en fait, c'est un ton qui varie, qui va être très très lyrique par moment, très très oral et très familier à d'autres. Tout dépend de ce dont on parle. C'est un peu comme une boîte automatique qui s'adapte au terrain et au dénivelé. Quoi.
Voilà. Et on est en permanence, effectivement, aux côtés donc du personnage d'Esperanza dans ses tourments psychologiques, parce qu'elle va évidemment subir un certain nombre d'avanies, de difficultés, de péripéties. Esperanza, on le disait, Laurent Chalumeau, c'est d'abord, lorsque votre récit commence, alors après c'est compliqué de dire votre récit commence, parce qu'effectivement on est entre flashback et perspective, mais c'est d'abord une femme d'eux, hein, puisque ce fameux Carver qu'elle a épousé, il est attorné général de l'État, donc il est le procureur général, donc très importante.
Il devient, c'est l'équivalent d'un ministre de la Justice, mais
au niveau du Nouveau-Mexique,
voilà. Cette femme s'aperçoit qu'en fait, ça la barbe d'être la femme de l'attorney général, parce que ça va engager un certain nombre de simagrées, de représentations, faire bonne figure aux côtés de son grand homme.
Elle a envie d'être le pot de fleurs à côté de son mari.
Et du coup, elle est prête à renoncer aussi aux avantages en nature.
Cette bonne situation sociale-là, ça ne lui suffit pas. Elle le rejette pas, mais c'est pas ça.
Ça lui fait l'effet d'être une cage dorée. Et ça aussi, je me suis dit que c'était en le faisant savoir au lecteur ou à la lectrice assez vite, c'était quelque chose qui allait renseigner le lecteur et le prédisposer favorablement vis-à-vis du personnage, parce que ça montre que le personnage ne se contente pas juste de belles paroles, mais que sa revendication à la liberté et à l'indépendance est quelque chose pour lequel elle est prête à renoncer à un peu de confort ou un peu d'aisance matérielle.
Mais cette liberté, cette indépendance, elle passe d'abord par son corps.
Alors, par ailleurs, elle a effectivement à cœur, si j'ose dire, de profiter de l'existence. Que vous avez très bien résumé l'affaire en citant cette chanson des années 80 en commençant. Vous disiez, être une femme libérée, c'est pas si facile, mais ça vaut pour mon livre, ça vaut pour bien des chansons country. Par exemple, la chanson de Miranda Lambert, dont on a entendu une bonne partie à l'instant, elle aurait pu aussi s'intituler comme ça. Et effectivement, c'est la dynamique qui emporte mon histoire. C'est quand on est une femme, comment faire pour pouvoir profiter de son passage sur Terre sans être trop emmerdé. En fait, je me suis aperçu en écrivant, je me suis aperçu que le simple fait de poser le principe d'une femme, en l'occurrence, elle a 45 ans, mais ça vaut à d'autres âges, mais d'une femme qui veut faire ce qu'elle veut avec ses cheveux, comme on dit.
Oui. Pas seulement avec ses cheveux.
Oui, mais faire ce qu'elle veut comme elle l'entend, en fait, ça fabrique du romanesque mécaniquement, c'est-à-dire que moi, j'avais juste moi après à suivre le ballon et
plus que si c'était un homme.
Oui, parce que une femme va se retrouver à devoir appliquer des procédures de prudence et de clandestinité auxquelles un homme lui se sentira moins tenu, c'est-à-dire que un homme peut avoir plusieurs partenaires. Sans que ça déclenche automatiquement un discrédit social et que ça vienne contaminer les autres aspects de sa vie quotidienne. C'est-à-dire que c'est un homme dont on sait qu'il a plusieurs maîtresses, dans sa vie professionnelle, on va dire, ah bah, après tout, ça nous regarde pas, il fait ce qu'il veut, du moment que son boulot est bien fait, etc. Si une femme se retrouve à un poste de responsabilité et qu'on lui sait plusieurs amants, les langues vont se délier et ça va tôt ou tard venir compromettre son avancement.
Aussi bien en France qu'aux États-Unis, puisque vous connaissez les deux univers.
Je pense que là, il faut pas être naïf. Mais alors, ce qui est une mauvaise nouvelle dans la vraie vie est une bonne nouvelle quand on raconte une histoire, que ce soit un roman ou un film, c'est que en fait une femme doit se retrouver, comme je disais, à appliquer des procédures de prudence et d'incognito.
C'est-à-dire qu'elle doit cloisonner, voilà, c'est-à-dire qu'elle doit cacher des choses,
elle doit faire plus attention que les autres. Se comporter en fait comme un agent infiltré en territoire ennemi ou comme dans le bureau des légendes, parce que c'est en fait dans l'écriture il est dit que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche ou l'inverse. Là, si elle a plusieurs interlocuteurs, pour les appeler comme ça, il est capital pour elle que chacun d'entre eux ignore l'existence des autres et que le reste du monde, qu'il s'agisse de son environnement professionnel ou familial ou amical, social, ignore l'existence de chacun d'entre eux. Donc quand même, ça suppose une discipline, comme je vous disais à l'instant, qu'on rencontre plus volontiers chez les flics undercover dans des séries pour sur la mafia que dans des comédies romantiques.
Voilà, et il y en a hein, effectivement des hommes qu'elle va croiser dans la vie et en particulier dans son lit. Et parmi eux, il y en a un qui s'appelle Jason Laudermilk, et qui est, figurez-vous, musicien, chanteur dans un groupe local qui s'appelle Dark Triad. Et cette triade noire, eh bien, elle tient en trois mots. Nous sommes à la page 68 de votre livre.
Machiavélisme, narcissisme, psychopathologie. La panoplie des bad boys, ces hommes toxiques dont, censément, les femmes sont toutes folles. Elle a déjà lu ça 20 fois. Avec les régimes et le point G, c'est un classique de la presse féminine. L'article lui a juste rafraîchi la mémoire. Prudent, l'auteur précise toutefois que machiavélisme, narcissisme et psychopathologie ne doivent pas être envisagés au sens psychiatrique, qu'il s'agit ici de formes légères de ces traits de personnalité. Légères, mais malgré tout nocives. Surtout si elles sont cumulées jusqu'à composer, donc, le caractère d'un de ces fameux sales types, aussi dangereux qu'irrésistibles. Ainsi sont-ils machiavéliques. Autrement dit, manipulateurs, menteurs, charmeurs, virtuoses dans l'art de profiter des femmes qu'ils séduisent et de les exploiter sans le moindre scrupule. Narcissiques, parce qu'ils s'adorent. Égoïstes, mégalomanes, obsédés par l'image qu'ils projettent, surtout quand ils tentent de faire croire qu'au contraire, ils s'en foutent. Du coup, leur abord sera attirant, puisque savamment calibré pour produire une illusion de naturel. Et puis cette confiance en eux qu'ils exudent, on peut s'y laisser prendre. L'amour qu'ils se vouent, c'est être contagieux. Et psychopathes, parce qu'ils enfreignent les règles, s'en jugeant exemptés, et multiplient les comportements imprudents et irresponsables. Un temps, ils peuvent ainsi donner l'impression d'esprits rebelles, affranchis des convenances, des bonnes mœurs ou des contraintes du vivre ensemble. Ça paraît excitant d'être comme eux. Menteur, abusif, paresseux, égoïste, insensible, infidèle, le beau salaud lance un plus fort défi que le chic type sur qui on peut compter. Le soir venu, les gars gentils ennuient, stables et fiables font bailler. Gimme Danger and Some Stranger. Tout ça donc, elle l'a lu si souvent qu'elle pourrait presque écrire les articles elle-même. Celui de l'après-midi innovait cependant, citant une récente étude, sans en dire plus sur l'étude en question, et affirmait qu'en plus de la sombre triade mentale, le bad boy était aussi reconnaissable à certains traits physiques, comme par exemple une mâchoire affirmée, un nez anguleux ou des yeux bien enfoncés. Elle passe donc Jason, le chanteur de Dark Triad, en revue. A-t-il une tête de pervers narcissique et de psychopathe machiavélique ? Il a certes les yeux bien enfoncés, plutôt que globuleux et exorbités, mais surtout, à force de travail devant la glace sans doute, il a parachevé une façon de porter la paupière sciemment lasse, mi-close, blasée par avance et goguenarde à la fois. Combinée avec ses lèvres épaisses, c'est du meilleur effet, presque obscène, mais in a good way. Tout comme son sourire narquois et la pose assurée que l'on sent peaufiner, des heures et des heures durant, face au miroir à se kiffer. Elle lui dit « C'est bizarre comme idée, choisir un nom qui veut dire machiavélique, narcissique et psychopathe. » Il fait la moue. « Au contraire, c'est cool. »« Ah oui ? » ?»« Bah oui. » »« Et pourquoi ?» Ça rend les nanas dingues. Il coche toutes les cases, lui, clairement. Elle dit « Certaines, peut-être, oui. » Il dit « Toutes. » Elle dit « Et vous, alors du coup, vous êtes tout ça, machiavélique, narcissique, psychopathe ?» Œil mi-clos, regard en biais, demi-sourire et un temps avant de dire « Ah, ça, moi, j'en sais rien. Ça, madame, l'épouse de procureur général, ça va plutôt être à vous de me dire. »
Ouais, le moins qu'on puisse dire, Laurent Chalumeau, c'est qu'Esperanza va être servie, car c'est un sacré lascar, ce Jason Loudermilk. Pas très malin, mais il a d'autres talents dont il sait se servir à merveille. Machiavélique, donc narcissique, psychopathe, un bad boy, c'est un sacré personnage de roman.
L'idée, c'était de confronter mon personnage féminin à plusieurs archétypes masculins et... ça, c'est tellement un archétype que c'est même devenu un stéréotype. Et pour parler français, c'est même un cliché.
Voilà. C'est... Il coche toutes les cases, effectivement.
Oui, non, mais c'est le bad boy irrésistible, tête de lard, tête à claque, mais qui réussit quand même à
tout est tombé.
Je ne sais pas, mais disons à promettre des moments plus divertissants que un brave gars sur lequel on peut compter. Et... je ne sais pas dans quelle mesure c'est le cas en France, mais je me souviens qu'aux États-Unis, c'était presque un genre littéraire ou un marronnier, un classique de la presse féminine, que de se demander pourquoi les femmes aimaient tant des hommes qui ne les aimaient pas. Je crois même qu'il y a un titre de bouquin de psychologie vulgarisée qui, dans les années 80, portait un titre approchant. Et du coup, quand moi j'écrivais, je suis allé en ligne sur Internet et je me suis aperçu qu'en fait, c'était que le genre restait florissant et que, avec régularité, tous les ans, il y avait des articles sur le sujet. Et alors, chose qui n'existait pas de mon temps, si j'ose dire, il y avait cette catégorie, la sombre triade, la dark triade, avec l'énumération comme ça des traits de caractère. Alors j'ai pas l'impression que ça ait traversé l'Atlantique. Je crois que en Europe, je sais pas, mais en France, on parle plutôt de pervers narcissique. On a vu ça. Il y a quelques années, l'expression est apparue, puis alors elle était mise à toutes les sauces. Mais bon, je sais pas si c'est identique, mais on va dire que le bad boy américain est le cousin du pervers narcissique français.
Voilà. Alors on l'imagine très bien physiquement, hein, ce Jason, ce qui est un petit peu moins le cas peut-être d'autres hommes que fréquente Esperanza. Je pense par exemple à Sir Wright, l'oncle d'une copine de sa fille, et peut-être plus encore ce photographe nommé Nick Nordam qu'elle va rencontrer à l'occasion d'un rodéo dans le Wyoming. Sa relation avec lui, elle n'est pas du tout du même type.
Non, mais comme je disais, il fallait
faire des archétypes,
varier les plaisirs et les tonalités. Et donc là, ce personnage, oui, de photographe, ça va être une forme de relation plus, comment dire, plus romantique et plus cérébrale, parce que principalement épistolaire. En fait, ce sera une relation non consommée, c'est-à-dire qu'en son bad boy avec qui là la consommation sera frénétique, mais sans plus d'affect, au moins d'affect exprimé que ça. Et à l'inverse, elle va avoir une passion, mais qui va rester platonique avec cet autre personnage. Et puis bon, il y a d'autres hommes aussi qui jalonnent son parcours. Mais voilà, mais il y a une opposition et d'une certaine façon une complémentarité flagrante entre ces deux personnages. Et la raison pour laquelle le bad boy et davantage décrit, c'était pour que le lecteur et la lectrice profitent justement du cliché, du stéréotype, c'est-à-dire que bien donner à visualiser un cow-boy, mais un cow-boy avec des guillemets là, même au pays des vrais cow-boys, il peut y en avoir des faux, et un type qui en rajoute et qui va cabosser son chapeau de façon savante, va avoir des bottes plus pointues, le jean qui descend plus bas, de savamment déchiré au genou, enfin voilà, un cow-boy coquet.
Voilà, Esperanza est entourée effectivement de toute une foule de personnages masculins. Alors il y a les trois qu'on a cités. Il y a aussi ceux qu'elle croise dans le cadre de son métier, puisque elle est la directrice d'un centre d'art contemporain. Pourquoi vous avez choisi de lui donner cette profession-là?
Parce que je voulais qu'elle exerce des responsabilités et que elle soit malgré tout en rapport avec la culture, parce que ça permettait d'ouvrir.
Oui, parce qu'il y a des débats que vous abordez. Par exemple, il y a une dispute entre plusieurs personnages autour de la question de l'appropriation culturelle.
Bah oui, parce que comme l'histoire se situe en lisière de la réserve de la nation Navajo, et que certains des artistes qui exposent dans le musée que dirige l'héroïne sont eux-mêmes d'origine navajo, mais il y a aussi, comme ils appellent ça, des anglos, donc des européens, enfin des gens d'origine européenne. Ils sont forcément traversés par ces débats et polémiques qui secouent le monde de l'art et de la culture de nos jours, mais parce qu'ils sont en première ligne, parce qu'effectivement dans la crosse pollinisation, je sais pas trop comment on dit, mais enfin bon, dans les échanges entre plusieurs cultures, s'arrête l'éventuel dialectique, pour prendre un mot compliqué, mais où s'arrête le mix vertueux, fécond, qui va déboucher sur des œuvres qui sont supérieures à la somme de leurs parties, et où risque de commencer l'exploitation, le détournement, ou même la trivialisation de données culturelles et identitaires importantes.
Voilà, quelques-uns des débats, effectivement, qu'on aborde dans ce John Giraud Art Center, donc référence à Jean Giraud, évidemment, l'auteur de Blueberry qu'on évoquait tout à l'heure. Laurent Chalubeau, vous écrivez des romans, vous écrivez des chansons aussi. Vous avez travaillé entre autres pour Bruel, Sardou, Fred Blondin, G-Squad. Là aussi, style complètement différent. Julien Clerc ou encore Bertrand Burgala qui était à votre place il y a pas si longtemps. Écrire une chanson, écrire un roman, écrire un dialogue pour le cinéma, pour la télévision, ce sont des exercices complètement différents ou complémentaires?
Alors moi, je donnerais tout ce que j'ai pu écrire pour avoir écrit une seule vraie grande chanson. Pour moi, c'est la forme d'art ultime, parce que la chanson, d'abord, comme chacun sait, bon, combine la musique, l'écriture, la voix humaine et l'interprétation. Mais surtout, la chanson a ce pouvoir absolument unique de rentrer dans la vie des gens et de s'y faufiler, parfois par effraction, et d'y revendiquer une pertinence qu'un livre ou qu'un film ne réussiront, même les meilleurs soient-ils, ne réussiront jamais à avoir. Il suffit d'être en état de dépit ou au contraire d'exaltation amoureuse pour se surprendre à trouver de la profondeur et de la pertinence à des chansonnettes qu'on se retrouve là subitement à entendre par hasard parce que l'autoradio du taxi dans lequel on monte va être en train de le jouer, ou le peintre ou le maçon qui bosse passe dans l'appartement d'à côté et qui laisse la fenêtre ouverte. Et une chanson qu'on aura jusque-là trouvée absolument idiote va faire l'effet d'être porteuse d'une profondeur et d'une sagesse qu'on attribuerait plus volontiers à Montaigne. Donc voilà, moi, j'aime les chansons par-dessus tout.
Eh bien, on va se quitter en fanson. Merci beaucoup, Laurent Chalumeau. Vice, votre dernier roman est publié chez Grasset. On va se quitter avec un extrait du dernier album de Bertrand Vergala, une chanson que vous lui avez écrite. Voici donc L'homme idéal.
C'est l'été, saison des concupiscences. Le soleil te réchauffe l'essence. Tes tentations bronzées te font l'enfer. Moi seul, je regarde la mer. Oui, car l'homme idéal, c'est moi. Encore faut-il trouver quelqu'un qui me mérite. L'homme idéal, c'est moi. Le sort a dit, ce serait toi. Projectiles m'ont fendu l'occiput. Des choses qui arrivent dans les disputes. Mais les disputes, ce n'est pas cher payé. Si je peux te ensuite sur l'oreiller. Trouver l'homme idéal, c'est moi. Il fallait désigner quelqu'un qui en profite. L'homme idéal, c'est moi. Et Jacques a dit, ce serait toi.
Bertrand, à quoi vous pensez le soir en vous couchant?
Souvent, on me demande mes trucs.
C'est quoi vos trucs,
mon secret,
vos secrets?
En un mot, comment je fais pour être ce que je suis?
Comment vous faites pour être...
Je réponds généralement, si je le savais, du coup, je ne le saurais pas.
Ah bon?
Eh oui, forcément.
Si vous
je vous laisse cogiter à ça.
Une garniture à pizza.
Lancer des ports, j'ai bien peur qu'il en reste encore. Jamais n'ai-je tenté le harcèlement. Ici on fait de l'art seulement. Dès lors, l'homme idéal, c'est moi. Longtemps chercher quelqu'un qui m'aimerait. L'homme idéal, c'est moi. De suite, ce serait toi. Because l'homme idéal, c'est moi. La vie est courte, donc savoure et profite. L'homme idéal, c'est moi.
L'homme idéal, Bertrand Burgala dans VMDN sur RFI. Petit hommage pour le grand retour de Baptiste Antoine dans VMDN. La ville de Saint-Ouen en banlieue parisienne est célèbre pour son marché aux puces. Alors on le sait moins, mais c'est aussi une antre d'Héphaïstos, le dieu du feu et de la métallurgie. Car c'est là, dans un atelier discret, à deux pas du périphérique, que se trouve un lieu assez unique en France, la Forge des Beaux-Arts de Paris. Seule école d'art à être dotée d'une forge. La sculptrice Carole Leroy l'a créée en l'an 2000. Depuis, elle forme des élèves des Beaux-Arts à l'art millénaire et délicat du métal. Et il y a quelques jours, elle a ouvert ses portes pour la première fois à Marjorie Bertin et à son micro pour VMDN. Marjorie qui a pu se promener parmi les machines et les élèves. Reportage.
Forger, c'est déformer la matière chaude par le rapprochement de deux outillages froids. Donc au départ, c'est l'enclume et le marteau. On a donc deux forges à charbon, une forge à gaz, deux marteaux pilons de 75 kg de frappe tombante. Ça veut dire que, en fait, ça économise la force de nos petits bras et qu'on peut travailler des masses sous les machines. Et on a tout un tas d'outillages qui s'adaptent aussi bien à l'enclume que pour les machines.
Céleste Philippot, je suis en troisième année. Je pratique la forge avec Carole depuis 2 ans. Je suis en train de faire une pièce que j'aimerais bien montrer à mon diplôme. Ça va être une série de tiges forgées. J'essaie de trouver le poids minimum, le poids juste pour qu'elles tiennent à peine en équilibre en fait.
Vous venez souvent ?
Oui, une fois par semaine. On est généralement 4 par jour. Ce qui est plus facile pour les déplacements. Parce que sinon après, si on est plusieurs sur les machines, on se marche un peu dessus. Et comme on a des objets parfois lourds et chauds, c'est quand même plus pratique qu'être en équipe réduite, on va dire.
Le fait de me dire qu'on est au contact plus ou moins du danger au quotidien, parce que voilà, on travaille avec le feu, c'est quelque chose qui crée la peur en général. Et là, on est au contact vraiment du feu. Le fait d'être proche, je pense que ça brise des barrières. Belinda, je suis en 5e année. Ça fait maintenant 3 ans que je fréquente l'atelier Forge. Je suis en train de forger une presse dans le but de réaliser une boucle d'oreille à échelle 1. Actuellement, on a face à nous 3 brins de métal que je chauffe à l'aide de la forge traditionnelle, donc c'est-à-dire une forge avec du charbon et du feu. Je viens par la suite me mettre dans un étau et tourner les brins les uns avec les autres pour former une tresse. Le métal parle aussi. S'il n'a pas envie de se tendre d'un côté, si on n'a pas suffisamment chauffé, il ne va pas s'étendre, il ne va pas s'allonger comme on le souhaite. Et c'est finalement ça qui m'intéresse.
Oui, au niveau de la technique, en fait, on est dans le tassement de la matière. Donc, la matière forgée, elle est toujours plus solide après forgeage, puisqu'on tasse les molécules. Le métal a un fil, et ce fil se resserre au fur et à mesure qu'on frappe dessus.
On a chauffé une barre à une température de 1000 degrés dans le four qui est là-bas. Et ce qui permet maintenant d'utiliser une machine qui est un marteau pilon qui envoie beaucoup de force et qui permet en fait de sculpter le métal encore chaud. Je m'appelle Valentin Ranger, je suis en train de forger une barre pour une de mes installations pour mon diplôme de 3e année. Je ne m'attendais pas du tout à rencontrer cette chose-là cette année. Entre la chaleur, le poids aussi, le fait que ce soit dur, ça possède complètement le corps. Elle apprend à être très rigoureux, à travailler de manière très méthodique, à savoir être très patient. Parfois, j'ai l'impression que l'acier entre en moi.
Le côté magique du feu, en fait, moi, c'est ça qui m'a plu, c'est travailler avec le feu. On travaille avec un élément fascinant et en même temps, on est dans l'action, puisque bah, une fois que le fer est chaud, comme vous le savez, il faut le battre, il faut pas tarder, mais il ne faut pas non plus se précipiter. Toute la pensée qui précède l'action est super importante. Et au moment où on agit, bah, y a un côté magique. Alors.
Reportage de Marjorie Bertin. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec l'auteur de bande dessinée Winchlus qui publie « J'ai tué le soleil » chez Gallimard Bande Dessinée. Et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Sept milliards de voisins.